foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 14 avril 2021. Bienvenue encore une fois à cette table ronde qui accueille deux fois par mois des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser des éléments de l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés par les médias que nous lisons ou fréquentons quotidiennement. Durant la prochaine heure, on demandera à ces spécialistes de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous questionnent et nous déroutent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours. Laissez-moi vous les présenter. En studio, il y a Suzanne Loisel, religieuse auxiliatrice et militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour Suzanne.
Bonjour François.
En télétravail, Sabrina Di Matteo, directrice adjointe à la formation continue auprès de la Conférence religieuse canadienne. Bonjour Sabrina.
Bonjour François, bonjour à tout le monde.
Bon, alors on vous entend très bien cette fois-ci. On va espérer vous avoir pour toute l'heure.
Ça devrait aller.
Il y a aussi Frédéric Barriot, qui est responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour Frédéric.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour François.
Alors on vous entend aussi très bien, alors espérons aussi qu'on pourra vous avoir pendant toute l'heure aussi. Sinon, ben, vous nous rejoignez par téléphone si jamais on se perdait. Ceci dit, aujourd'hui, ben, on va discuter de l'héritage du théologien Hans Kuhn, des enlèvements en Haïti. Et on va aussi réfléchir à cette idée, peut-être pas aussi farfelue qu'on peut le croire, de la création d'une conférence épiscopale québécoise. Mais d'abord, les dernières nouvelles sur le front de la COVID-19. Vous l'avez entendu hier et vous avez probablement vu le premier ministre François Legault hier dire « La situation est grave et risque de s'aggraver ». Alors qu'il a été habituellement plus dynamique, hier, il a pris un ton très grave, très sobre pour annoncer ceci. Aux personnes qui souhaitent que Québec donne un peu de lest dans ses mesures afin de contrer la COVID-19, le premier ministre a répondu « Malheureusement, les augmentations de cas dans tous les groupes d'âge repoussent le retour progressif à la normalité qu'on souhaite. La situation risque d'être incertaine jusqu'à ce que les Québécois qui le veulent reçoivent une première dose. » et jusqu'à ce que l'année scolaire soit terminée, soit le 24 juin. Il va falloir être très patient. On a deux gros mois devant nous. Et un peu plus tard, il a expliqué, ça veut dire que le 24 juin, le début de l'été en fait, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité. Sabrina Di Matteo, quand on utilise trois verbes comme ça, espérer, commencer et penser, on a l'impression que la date du 24 juin, là, c'est peut-être pas la meilleure date possible.
C'est peut-être quelque chose comme le retour du Christ. On ne sait pas exactement quand ça va se passer. on ne fera pas de théologie au vol à 9h du matin, mais je pense que ça témoigne bien et ça traduit en fait qu'on est quand même dans un horizon encore bien incertain. Ce qui est difficile avec ça, c'est qu'en fait, je pense, et c'est un des problèmes, c'est un des enjeux pour l'adhésion de la majorité de la population à ces mesures qui se prolongent, c'est qu'on a vu dans les dernières semaines un véritable yo-yo logistique sans explication. Juste avant Pâques, vous vous rappelez, à peu près 10 jours avant Pâques, on avait soudainement annoncé la réouverture côté culturel, théâtre, même les lieux de culte passaient de 25 à 250 personnes.
Oui, exact.
Et juste avant Pâques, à Québec, Lévis, Gatineau se sont vus restreindre de nouveau à 25. Et tout de suite après Pâques, ben, comme la majorité des gens pouvaient s'en douter, on est revenu au seuil de 25 pour les lieux de culte, ce qui est dommage pour nos concitoyennes et concitoyens musulmans qui ont commencé le ramadan cette semaine, les orthodoxes qui vont vivre leur Pâques vers le début mai. Donc, bon, voilà, ils n'auront pas la chance peut-être de se rassembler de façon plus large. Mais de toute manière, tout le monde a été étonné de ce revirement de situation, là, comme si soudainement il n'y avait plus de pandémie. C'était assez étonnant. Et évidemment, avec ça, le retour d'un couvre-feu pour Montréal et Laval qui revient à 8h, oui. Alors que ça avait été prolongé jusqu'à 9h30 le soir, avec le retour de la lumière qui dure plus tard. Donc c'est un coup dur pour le moral, d'autant que c'est un peu en contradiction tout ça avec le fait qu'on pouvait peut-être espérer que cette première vague de vaccination pouvait nous permettre d'être relâcher un petit peu. Alors, c'est très difficile. Ça donne des scénarios difficiles à suivre. Il y a des choses qui sont dites en point de presse et ensuite, il y a des nouveautés qui s'ajoutent juste après le point de presse. Par exemple, le port du masque à l'extérieur pour des activités faites à 2 ou 3 ou 4 personnes. Alors, il y a énormément de confusion qui est suscitée par cette manière de gérer les mesures sanitaires en ce moment. Alors, on peut comprendre qu'il y a énormément de frustration et que les gens ont un petit goût de désobéissance qui s'est en fait récemment très mal traduit par de la casse dans le vieux Montréal.
Oui.
Alors voilà, c'est un peu où j'en suis. Moi, je ne peux qu'espérer que François Legault et son équipe apprennent de ça qu'il vaut mieux gouverner avec le plus de transparence possible et des mesures claires. Et de toute manière, dans tout ça, le problème, c'est qu'on en revient toujours à une sorte de responsabilité individuelle qui est évidemment extrêmement importante. Mais à côté de ça, on ne voit rien se passer sur le front de la ventilation dans les écoles. On a aujourd'hui, 14 avril, des enseignantes et enseignants en grève qui n'en peuvent plus de leurs conditions de travail qui étaient déjà problématiques mais qui sont en plus en temps de pandémie puis avec l'école à la maison compliquée. Alors voilà, je souhaiterais là, qu'on puisse dans les prochaines semaines retrouver un sentiment de confiance vis-à-vis la transparence des communications et des règles claires venant du gouvernement.
Mais c'est sûr qu'on tout le monde espère en tout cas le beau temps. C'est ce qu'on nous disait depuis longtemps. En fait, ça fait 13 mois qu'on nous promet là. Un mois plus tard là, ça s'en vient. Encore un dernier droit là. Encore quelques semaines là et le beau temps sera là. Sauf qu'hier, il est arrivé. Un nouvel élément, c'est que le premier ministre a dit, écoutez, là, on avertit les jeunes, c'est vous qui êtes les victimes, les prochaines victimes de ce variant-là, alors qu'auparavant, c'était les personnes âgées et donc qui étaient les premières personnes qui bénéficieraient du vaccin. Là, ce qu'on vient de dire, c'est, attention, là, les gens qui risquent d'être davantage touchés par cette épidémie, en tout cas ces variants-là, ce sont les plus jeunes qui, eux, ne sont pas en liste pour les vaccins. Allez-y là-dessus, Frédéric Barriot, ça complique les choses, là.
Mais en fait, c'est pas si nouveau que ça. Dès la deuxième vague, les statistiques de la santé publique démontraient de toute façon que ça n'avait plus rien à voir avec la première vague où ça avait effectivement frappé d'abord les personnes très âgés en CHSLD ou enfin c'est dans les milieux de travail en ce moment où la pandémie continue de frapper et c'est là où on voit une espèce d'incohérence ici. Donc on veut maintenir un semblant de normalité ici, donc tout ce qui est vraiment les activités économiques, on n'a pas évoqué la possibilité d'un reconfinement des milieux de travail alors que c'est le vecteur principal. Donc là, évidemment, effectivement, les adolescents et les plus jeunes continuent d'être à risque pour la simple et bonne raison aussi, il faut quand même le dire, en milieu urbain où il y a très peu d'espace, qui permet justement de ventiler quand on est déjà enfermé entre quatre murs. Donc, mais enfin, j'ai trouvé ça un peu paternaliste, non pas que ce soit anodin, mais en même temps, il faut bien comprendre que l'un des enjeux ici qui est fondamental, c'est qu'en fait, on veut maintenir un semblant de normalité et tout est ramené, comme Sabrina le disait il y a quelques instants, tout ramener encore une fois à la responsabilité individuelle, alors que finalement, on maintient justement les activités qui exposent un grand nombre de personnes à être encore plus à risque. Donc, voilà, je sens bien qu'on veut, on craint bien entendu les conséquences économiques d'un reconfinement, mais en même temps, et là, on sait d'ores et déjà finalement que la vaccination ne couvrirait pas les fameux variants dont nous sommes pour le moment épargnés, mais ce n'est qu'une question de temps. Donc, évidemment, j'entends, puis j'en suis tout à fait. Moi aussi, j'en ai vraiment plus que soupé de ces mesures sanitaires-là. Mais en même temps, je me demande si finalement, il ne faudrait pas prendre vraiment les grands moyens et poser un reconfinement vraiment pour comme si c'est du reste ce qui est en train de s'imposer vraiment dans certains pays européens. Donc, je pense que ce serait vraiment la solution plutôt que d'y aller avec une espèce de valse d'hésitation, un véritable tango gouvernemental, deux pas en avant, un pas en arrière. Donc, j'entendais un reportage hier à Radio-Canada, donc dans Villeray-Saint-Michel, et c'est un peu ça. Donc, les jeunes, au fond, entendent bien le message, donc se sentent sensibilisés à cette responsabilité, mais en même temps, il y a un manque de clarté. Et l'un des enjeux plus fondamentaux, c'est qu'en fait, plus on va restreindre, plus on va vraiment imposer des mesures de plus en plus strictes, le risque, en fait, c'est que finalement, il y a des rassemblements qui se fassent non pas sur la place publique, mais dans des appartements, dans des endroits, finalement. Donc, il y a une espèce de culture du secret qui pourrait être vraiment qui est à craindre, finalement, et les policiers le reconnaître. J'ai un beau-frère, moi, qui est policier donc à Montréal, et lui, évidemment, il s'est fait une responsabilité vraiment jusqu'à maintenant, il n'a pas imposé vraiment de contravention, parce que la plupart des situations vraiment pour lesquelles il y avait une culture de la délation presque soviétique, c'est vrai que ça ne justifiait pas une intervention. Reste que le danger est là. Le danger est là, c'est qu'il y a des rassemblements illégaux de plus en plus.
Alors, Frédéric se demande si on ne devrait pas avoir davantage de confinement et de s'en aller vers des mesures encore plus drastiques. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Suzanne?
Moi, j'en peux plus, pour vous dire la vérité.
Vous avez été vacciné quand même?
Première dose.
Parfait.
Mais je fais partie des gens qui sont en attente de la deuxième dose. Et on a entendu dire officiellement que cette semaine, les CHSLD étaient les premiers ciblés. Donc, mon tour s'en vient parce que je suis dans une RPA. Je ne suis pas dans un CHSLD quand même.
Bon.
Ça s'en vient. Mais moi, par rapport à ce confinement, je pense que mes deux collègues ont bien identifié tout ce yo-yo logistique qui, effectivement, me rend très inconfortable, mais rend la population inconfortable et je dirais même le gouvernement inconfortable. J'avoue que M. Legault n'avait pas l'air très en forme hier et ses acolytes non plus. Mais je voudrais peut-être dire deux choses. Revenir sur la question économique. C'est Frédéric, je pense, ou Sabrina qui disait comment l'argument économique est prépondérant dans les décisions. Moi, j'avoue, j'ai eu un très profond malaise et je vais l'avoir jusqu'à temps que la décision soit... Tout ce qui a été dit autour de la Formule 1, je trouve ça aberrant que dans un contexte d'aujourd'hui qu'on pense à une activité comme celle-là, supposément à huis clos, mais qu'il y a je ne sais pas combien de gens qui viennent de je ne sais combien de pays, la frontière s'ouvre. Quand on sait que pour des raisons humanitaires, actuellement, il y a des familles qui ne peuvent pas se retrouver à cause des mesures de confinement, et que M. Legault disait, ben finalement, ce qui m'embête beaucoup, c'est la suite, parce qu'on a un contrat de jusqu'en 2029, mais ce qui sera respecté si on ne maintient pas la ligne dure par rapport à la Formule 1. Puis en même temps, il va dire, dans un repli, ah ben moi, dans le fond, j'aimerais bien ça que ça soit pas cette année. Alors, on est toujours en train de pédale à gauche, pédale à droite, pèse sur le frein, pèse sur l'accélérateur, mais des contradictions, et moi, je pense que la population le sent, ça. et moi je dirais particulièrement les jeunes. Et moi je suis très inquiète des jeunes, effectivement. Et quand je regarde les manifs successives, parce que oui, dimanche soir, parce qu'on a beaucoup entendu parler à cause de la casse, mais il y en a eu d'autres le lendemain, puis le surlendemain, plus modeste, on en parle moins quand il n'y a pas de casse. Mais il y a quelque chose qui se dit à travers ça. Et je finis rapidement en disant, l'opposition là-dedans, bon, quand Legault et compagnie disent, ben, on gouverne, mais le gouvernement comprend des élus de l'opposition. Et ça, j'ai l'impression que c'est complètement disparu du radar. Et je t'ai frappé hier, dans le cadre d'une émission, je pense c'était à Radio-Canada, avec Anne-Marie Dussault, où trois chefs d'opposition ont été interviewés et on leur disait, bon, est-ce que M. Legault continue de communiquer avec vous, etc.? Il n'y en a plus de communication. Et moi, je pense que pour la démocratie, c'est extrêmement inquiétant actuellement.
Alors, cette pandémie-là aura eu plus des impacts encore plus grands, hein, non seulement sur notre santé, mais aussi sur notre démocratie, dites-vous, Suzanne Loisel. Je vous rappelle les paroles du premier ministre d'hier. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité. Alors, dans quelques instants, un prochain sujet à Foyer Turbulence. Alors, le théologien suisse Hans Küng est décédé paisiblement dans son sommeil le 6 avril 2021. Il avait 93 ans. Un prêtre et un auteur qui ne craignait pas la controverse, Hans Küng a travaillé et étudié avec Joseph Ratzinger à Tübingen, en Allemagne, dans les années 1960. Durant le pontificat de Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, Hans Küng a émis de très virulentes critiques contre son ex-confrère d'université, et tout comme il l'a fait envers son prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Présent au Concile Vatican II de 1962 à 1965 à titre de conseiller d'évêque, il a suscité la controverse peu après avec ses opinions concernant l'infaillibilité du pape. Et dès 1979, la Congrégation pour la doctrine de la foi lui retire sa faculté d'enseigner en tant que théologien catholique. Mais il continue à travailler comme professeur émérite de théologie œcuménique, ce qui est permis, à l'Université de Tübingen. Il a pris sa retraite de l'enseignement en 1996, il y a 25 ans. Frédéric Barriot, c'est un esprit libre qui est décédé il y a peu de temps.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il incarne bien, donc à la fois, bien entendu, donc le vent d'ouverture qui avait été porté par le Concile Vatican II, donc vraiment une théologie aussi, donc une libre parole de plus en plus permise en Église quand même, qui après des années quand même de rigueur, d'austérité, donc de l'époque du Concile de Trente, vraiment de la censure. Mais en même temps, on voit bien et on sent bien vraiment que très rapidement dans l'après-Concile, avec l'arrivée de Jean-Paul II, j'ai eu le malheur de m'afficher personnellement en solidarité, puis même en reconnaissant l'œuvre immense de ce théologien, vraiment son apport considérable. Et j'ai été aussitôt interpellé par un jeune catholique de la génération Jean-Paul II, qui me reprochait vraiment d'avoir reproduit les paroles de Hans Küng, hein, qui avait qualifié le pape Jean-Paul II de dictateur spirituel, et tout fait la liberté de débat dans l'Église. Et pourtant, si on faisait l'exercice de dresser la liste ici de tous les théologiens et toutes les théologiennes qui ont été soit censurés, contraints au silence, soit auxquels on a retiré leur chair pendant le pontificat de Jean-Paul II, mais aussi loin que dans le pontificat de Benoît XVI, rappelons-nous l'Association des religieuses américaines qui a été mise sous tutelle. Donc, quand même, je pense que c'est en cela. Je pense que c'est vers cela qu'on doit continuer à tendre. Donc, vers une tension perpétuelle, mais en même temps aussi, cette liberté de parole qui est absolument nécessaire, cette liberté de débat qui est constamment mise à mal. Et c'est en cela, je pense, que vraiment l'héritage de Hans Kuhn, qui est typique par ailleurs d'une tradition typiquement allemande, hein, donc l'infaillibilité pontificale dès le Concile de Vatican I, il y avait des théologiens allemands à l'époque qui la contestaient. Donc c'est une pure tradition. C'est quand même le pays de Luther.
Ben oui, absolument.
Je pense là vraiment que c'est une œuvre, mais c'est aussi une posture qui est plus jamais actuelle.
Oui, mais c'était un homme donc très critique de l'institution et en même temps qu'il ne l'a jamais quitté. Je vous lis une phrase qu'on trouvait dans le journal Le Monde le jour de son décès. « Hans Kuhn est demeuré enfant d'une église qu'il n'a jamais voulu quitter, tout en souhaitant la réformer en profondeur dans l'esprit du Concile Vatican II, auquel toute sa vie, il est demeuré attaché. » Sabrina Di Matteo, c'est quand même une position difficile à tenir, ça, d'être toujours membre d'une Église qu'on critique tout à la fois.
Absolument. J'apprécie que tu apportes ça pour commencer, parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, et notamment des personnes qui sont souvent marginalisées dans le discours de l'Église ou dans ses pratiques. Pas plus tard que la semaine dernière, dans une activité d'un colloque étudiant, le colloque Anita Caron à l'UQAM, un panel de jeunes femmes chrétiennes, catholiques, posait cette question-là, en fait. Est-ce qu'on reste dans l'Église catholique en devant toujours lutter de l'intérieur pour sa réforme? Et donc, est-ce qu'on vit notre foi sous le mode du combat à tout bout de champ? Ou bien est-ce qu'on quitte pour aller ailleurs? Et je trouve ça intéressant et inspirant que Hans Kuhn ait pu trouver cet espace de liberté de pensée, de parole, et en entraînant beaucoup de personnes derrière lui grâce à son enseignement et ses écrits. Donc, il n'a jamais perdu, je crois, cette espérance de pouvoir se dire situé dans cette famille catholique tout en souhaitant l'amener ailleurs. Et pour moi, ça pose en fait la question de on a dit que c'est un théologien de la réforme, on peut l'opposer à Jean-Paul II sur la question d'une restauration, d'une autre forme d'Église à laquelle il s'opposait. Puis on a bien vu les tiraillements puis l'interdiction d'enseigner dans une faculté catholique qui lui a été faite par Jean-Paul II, justement. Mais pour moi, tout ça se traduit par la question de qu'est-ce que signifie la théologie catholique? C'est quoi faire de la théologie catholique? Est-ce que c'est de maintenir que le catholicisme est un dépôt de la vérité et qu'enseigner la théologie à ce moment-là, ce n'est que répéter ce qui nous a été révélé? Ou bien est-ce qu'on considère que faire théologie, c'est toujours avoir ce travail d'actualiser ce qui a été reçu des évangiles et de la tradition et de le mettre en dialogue avec notre actualité et avec nos cultures, avec les tensions qui se posent. Pour moi, c'est ça faire théologie. C'est une tension créatrice qui contribue à continuer l'accomplissement d'une révélation. Et je pense que c'est ça que Hans Kuhn doit nous inspirer. Et je lisais le philosophe Jean Grondin dans Le Devoir le 10 avril, donc suite au décès, qui termine essentiellement en disant que des figures de théologiens visionnaires et même flamboyants, mais je dirais aussi fidèles, comme Kuhn, il n'y en aura plus beaucoup. Et ça, c'est malheureusement vrai. Pour moi, c'est ce qu'il laisse Hans Kuhn, cette liberté et cette fidélité en même temps. Et je crois que c'est important qu'on retienne ça. Je parlais des groupes marginalisés. J'ai mentionné les femmes, mais on peut penser aussi à des personnes qui s'identifient à la communauté LGBTQ, à qui, pas plus tard que quelques semaines, le Vatican disait essentiellement on ne peut pas bénir vos couples. Ça blesse. Ça blesse très fort. Il y a toujours les divorcés remariés se sentent souvent mis de côté dans l'Église. Alors, il y a quoi pour ces personnes-là comme communauté ecclésiale? Que j'ai vu se répondre, par exemple, par des églises protestantes ou anglicanes à la question de la bénédiction des couples homosexuels, c'est des églises qui vont dire, ben nous, on vous accueille et on vous bénit. Alors est-ce que notre Église catholique, elle va simplement se saigner des gens marginalisés? Et je trouve que ce que l'Université de Tübingen a fait en créant pour Hanskens cet institut de théologie écuménique pour ne pas le perdre comme théologien
après son interdiction. Un petit tour de passe-passe quand même, là.
Exactement. Mais ça, je trouve que c'est très inspiré et je pense qu'on devrait regarder vers ça comme chantier d'avenir pour nous, parce que faire théologie aujourd'hui, c'est aussi essayer de refaire ce travail d'unité entre Église et différentes traditions chrétiennes. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut envisager l'avenir plutôt que de continuer à semer la division.
Alors, Suzanne Loisel, un dernier mot sur Hanskens.
Oh, il y aurait plusieurs mots à dire sur Hanskens. Je suis de la génération qui a fait sa théologie au moment où Hanskens prenait quand même de l'espace et de la place dans l'espace public. C'est un théologien inspirant, c'est un théologien exigeant, et c'est un théologien, en fait, qui... Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'ouvrages majeurs, et il y a quand même une trilogie sur le christianisme, l'islam, le judaïsme qui fait époque, qui fait école et qui marque la pensée contemporaine. Mais je voudrais quand même insister, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, mais j'aimerais souligner quand même son souci du rapprochement écuménique. Il y a beaucoup, beaucoup fait pour le rapprochement entre les différentes églises. Et il y a beaucoup pensé la pluralité religieuse. Et dans un temps où on revenait presque à une pensée unique, à un retour à une pensée unique, et bon, on a évoqué Ratzinger, Jean-Paul II, des heures sombres de l'Église et de la pensée théologique. Et Hanskens a été quelqu'un qui à la fois a connu les grands moments du Vatican. Il était dans les coulisses du Vatican, on l'appelait le petit gamin avec Ratzinger à l'époque, c'était des jeunes flots en théologie, ça. Mais il a connu tout ce brassement d'idées, et puis il a connu le couvert sur la marmite. Et entre les deux, il a créé son espace de réflexion. Et je dirais peut-être deux choses en terminant. La première, j'ai été très frappée par ce qu'il a dit, et à plusieurs reprises, et on retrouve ça entre autres dans ses mémoires à lire en passant. J'ai pas lu les 50 ouvrages, mais il y a des ouvrages qui sont absolument inspirants. Je pense que tous sont inspirants, mais je peux pas parler de tous. Mais il disait, et il est revenu souvent avec ça, il n'y aura jamais de paix entre les nations s'il n'y a pas de paix entre les religions. Mmh. Et il y a beaucoup milité pour le rapprochement entre les peuples, mais aussi pour le rapprochement entre les religions. Et les passerelles qui existent entre ces deux enjeux. Et effectivement, pour lui, je pense que la grande valeur, c'était la liberté. La liberté d'expression, la liberté de réflexion, la liberté de recherche, etc. Dans une institution où il a rué dans les brancards et il a beaucoup travaillé pour la démocratie dans l'institution ecclésiale. Hélas, il est mort avant que l'institution devienne démocratique. Et oui, il a choisi de ne pas quitter l'Église. Moi, ça m'a toujours fasciné parce que, oui, il y a des tentations de quitter l'Église. Et bon, je pense qu'on y a tous peut-être pensé un jour ou l'autre pour toutes sortes de raisons. Mais il a choisi d'y rester avec le rêve de transformer cette institution-là et de l'installer dans le monde actuel avec ses tensions, avec ses recherches, avec sa quête de démocratie, respect des peuples. Moi, je pense qu'on lui doit beaucoup et que je pense que je suis pas sûr que les études en théologie aujourd'hui, c'est un des auteurs incontournables.
Alors, je vous rappelle qu'en 2007, Hans Kung est venu au Québec. Marco Veilleux, dans la revue Relations, l'avait rencontré. Et il lui a posé cette question, pourquoi demeurer dans l'Église catholique? Et voici sa réponse. Si vous identifiez l'Église avec la hiérarchie, il y a effectivement peu de raisons de rester. Mais je vois plutôt l'Église comme l'ensemble de la communauté des croyants, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Alors, je ne peux pas m'imaginer quitter cette communauté. Alors, Hans Kung, je vous rappelle, est décédé paisiblement dans son sommeil le 6 avril 2021. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence, de sa table ronde, et je suis en compagnie de Suzanne Loisel, une religieuse auxiliatrice, de Sabrina Di Matteo, de la Conférence religieuse canadienne, et de Frédéric Barriot, du Centre Justice et Foi. On va parler maintenant d'Haïti. 5 religieux, 2 religieuses, dont 5 d'Haïti et 2 de France, ont été enlevés le dimanche 11 avril, donc dimanche dernier, en Haïti. Les ravisseurs réclament 1 million de dollars de rançon. La police soupçonne un gang armé, baptisé 400 Mawazo, d'être à l'origine de cet enlèvement. Les bandits opèrent dans la municipalité de Croix-des-Bouquets. Ça fait partie de leur territoire, ce gang-là, au nord-est de la capitale, à Port-au-Prince. En plus des religieux, il y a aussi 3 membres de la famille d'un prêtre qui ont aussi été enlevés. C'est que les 10 religieux et ces 3... les 7 religieux et les 3 laïcs se rendaient à la cérémonie d'un prêtre de cette communauté-là qui s'appelle Jean-Arnel Joseph à Gantier. Alors, c'était pendant leur voyage là qu'ils ont été kidnappés. 4 de ces religieux sont membres de la Société des prêtres de Saint-Jacques, une congrégation française. On a parlé d'une dictature du kidnapping en Haïti. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, Suzanne Loisel. Vous connaissez bien le pays et vous n'êtes pas surprise, évidemment, de ces enlèvements-là, puisque c'est monnaie courante actuellement.
Exactement. Bon, d'abord, c'est un triste événement dont on ne connaît pas le dénouement au moment où on se parle. J'essayais ce matin de voir s'il y avait des développements de dernière minute. Bon, c'est un stress incroyable pour les personnes. Pour avoir connu des personnes qui ont été kidnappées en Haïti, je peux vous dire que c'est un moment extrêmement difficile, d'abord pour les personnes kidnappées, pour les proches des personnes kidnappées. Mais vous avez raison de dire dans votre introduction que c'est un phénomène courant. Comment vous avez dit ça, la dictature du kidnapping, en fait, c'est... Oui, si on regarde les rapports de droits humains dans les 5 dernières années, je veux dire, je vous ferai pas la liste des kidnappings, je passerai 3 émissions successives, mais c'est monnaie courante. Bon, là, évidemment, c'est des religieux et en plus, c'est des étrangers. Il y a 2 personnes originaires de France. Dès le lendemain, Le Monde, il y avait un très grand article dans Le Monde et... mes amis haïtiens disaient, bien sûr, on en parle parce qu'il y a des Français. S'il n'y avait pas eu des Français dans ce groupe des 7 religieux, on n'aurait pas entendu parler. Et ce qui est très vrai. À tous les jours, je pense que et Le Monde et les journaux occidentaux ne font pas la manchette avec les kidnappings qui se répètent depuis des mois, pour ne pas dire des années. Cet événement-là n'est ni une surprise ni un accident. Dans le fond, ça s'inscrit dans un contexte de violence, de viol, d'exaction. Les rapports des organisations de droits humains sont sur un pied d'alerte depuis des années. Ils font des rapports aux instances internationales, au Conseil des droits de l'homme à Genève, etc. Mais ça se fait dans un contexte où, politiquement, il y a une connivence, j'ai pas peur de le dire, avec ces bandes armées. Et c'est clair que le gouvernement actuel et Jovenel Moïse est parti de ce fléau des kidnappings, de l'insécurité dans le pays. Et la recrudescence, il y a toujours des pics. Hein? Il y a une période d'accalmie, puis oups, ça remonte, ça redescend. Mais c'est très lié aussi au contexte social, au contexte politique. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement, les kidnappeurs, un agenda politique de transformation de la société, de démocratisation de la société.
On parle de bandits, là, actuellement.
On parle de gangs armés. Et Dieu sait, ils sont à l'origine de tant de massacres. Massacre de la Saline, qui s'est énervé avec ça qui a eu lieu l'année passée? C'est presque, j'oserais dire, un mode de gouvernance. Mais c'est aberrant de dire ça. Mais c'est... Comment ça qu'il y a un si grand laisser-aller? Oui, on va dire la faiblesse des institutions comme la police, comme, les prisons. Il y a eu une évasion massive il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas très bien de la date, mais c'est depuis Noël. Et ces gens-là, là, sont en liberté aussi. Hein? Faut voir... il y en a, je pense, qui sont dans un processus de réhabilitation qui va réussir, mais il y en a d'autres qui enrichissent et grossissent les bandes armées. Alors, c'est très inquiétant, ce que vous appelez la dictature du kidnapping, et par rapport à une gouvernance d'une faiblesse extrême, sauf de servir ses propres intérêts, et une gouvernance marquée par la corruption, par la violence, par l'élimination de la dissidence. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, tant mieux qu'on en parle, mais c'est un phénomène, je dirais, c'est quotidien. Je veux dire, là où il y a de l'argent, là où il y a des biens, là où il y a une possibilité de s'enrichir, pourquoi s'enrichir? Pour s'armer davantage, pour avoir une plus grande emprise sur les villages, les populations locales. C'est effectivement dramatique actuellement. Et que fait la communauté internationale dans tout ce processus? Il y a eu beaucoup d'interventions récemment à l'intérieur d'Haïti, mais aussi à l'extérieur pour revendiquer, je dirais, un retour en guillemets à la démocratie, au processus démocratique, avec toute la question de la fin du mandat de Jovenel Moïse qui s'obstine de garder le pouvoir et à quel prix, et au prix d'un désordre généralisé.
Ben alors, je vous rappelle, peut-être que vous ne l'avez pas vu, là, Suzanne Loisel, mais peut-être que vous l'avez vu, mais le premier ministre, Joseph Jout, a démissionné cette nuit. Hein. Alors, mais il n'a pas mentionné, évidemment, la question des kidnappings là, pour justifier sa démission. Mais déjà, on a un État là, qui est de plus en plus chaotique, là, avec un président qui s'accroche au pouvoir, et là, il n'y a plus de premier ministre.
Et ce que vous n'avez peut-être pas vu aussi, et ça a été lancé hier soir, un message de la Conférence des évêques catholiques d'Haïti qui invite à la fermeture des écoles de l'université demain, au primaire ou du primaire à l'université demain, ouais, comme protestation
devant ces événements.
Devant ces événements.
Et c'était aussi, c'est partagé, en tout cas, cette demande-là par la Conférence haïtienne des religieux,
voilà,
et des religieuses. Du côté de la Conférence religieuse canadienne, on a réagi à Sabrina Di Matteo. On a dit que cette tragédie n'était que le reflet de la situation inhumaine et désastreuse à plusieurs niveaux que traverse le pays depuis plus d'une décennie. De votre côté, pas de nouvelles du côté des confrères et consœurs d'Haïti?
Non, on n'a pas de nouvelles particulières qui sont arrivées. D'ailleurs, la Conférence religieuse canadienne s'est adressée au premier ministre Justin Trudeau il y a quelques semaines. On en avait d'ailleurs parlé à cette même émission avec presque la même tablée et on n'a rien eu, même pas, je crois, d'accusé de réception. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'au plan de la solidarité internationale, Haïti est le plus grand bénéficiaire de l'aide canadienne. Seulement en 2018-2019, l'aide du gouvernement du Canada en Haïti représentait pas loin de 97 millions de dollars. C'est le pays qui reçoit le plus du Canada dans les programmes internationaux des Amériques. Alors, c'est étonnant que qu'il n'y ait pas plus d'intervention politiquement parlant ou stratégiquement parlant face à cette situation. Et d'ailleurs, cette nuit, le premier ministre en Haïti, Joseph Jout, a démissionné sans donner plus de raison, en disant simplement que ça a été un honneur de servir son pays. Et le président Moïse a accepté sa démission sans plus, et l'a déjà remplacé, a déjà nommé quelqu'un. Alors c'est très inquiétant là, évidemment, qu'il insiste pour rester au pouvoir. On se rappelle qu'il avait éliminé des sénateurs afin de pouvoir faire en sorte que les règlements soient en sa faveur pour rester, mais qu'on soit comme communauté internationale si impuissante alors qu'il y a tant de violence, de kidnapping, d'insécurité. Jusqu'à un certain point, là, ils ont été chanceux, si on veut, par rapport à la pandémie. Ils n'ont pas encore été trop affectés, mais ça commence de plus en plus là à se rendre. Alors, voilà, on espérerait vraiment que le Canada, comme membre aussi du core group international, puisse avoir une parole et une action forte.
Alors, du côté des Jésuites, le Centre Justice et Foi est lié aux Jésuites. Les Jésuites du Canada sont aussi liés aux Jésuites d'Haïti. C'est pas une surprise, là, ce que vous entendez aujourd'hui là, comme nouvelle.
Non, du tout. Il y a eu plusieurs vraiment interventions. Il faut quand même rappeler donc l'histoire très particulière, les liens vraiment extrêmement forts qui lient le Centre Justice et Foi, la revue Relations, mais aussi donc les Jésuites du Canada français à l'époque, donc avec Haïti. Là, souvenons-nous vraiment là, dans les années de la junte Duvalier, donc l'exode massif d'Haïtiens, le rôle joué par Julien Harvey et Jacques Couture à l'époque, qui était ministre de l'Immigration, donc dans leur installation. C'est donc vraiment une relation très, très, très de long terme. On se souviendra aussi de Carl Lévesque.
Oui, Carl Lévesque, j'allais le nommer. Là. C'est un beau souvenir là, pour tout le monde. Là, ici.
Et de longue date, c'est au point tel où en ce moment, donc le secrétaire de la province jésuite du Canada est un Haïtien, Lucien Antoine. Donc, il y a vraiment une relation très, très, très fort. Non, on n'est pas surpris, malheureusement, évidemment, qu'on va retrouver donc des Jésuites haïtiens donc aux premières lignes, vraiment, donc de ceux qui critiquent justement l'espèce de chaos généralisé et aussi vraiment les injustices vraiment systémiques. Mais je pense que ça frappe aussi, ça frappe un peu partout. Moi, j'espérerais qu'il y ait dans sur notre prochain sujet, mais vraiment une réponse aussi de l'Église du Québec. Vraiment, on a des liens vraiment historiques extrêmement forts. Hein. L'une des premières prises de position ecclésiale est venue de mon ancien curé, si j'ose dire, le vicaire général Jean-Routy Denois, qui est prêtre de Saint-Jacques, mais qui est le vicaire général du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, où il y a d'ailleurs trois prêtres de cette communauté-là. Donc, à ma connaissance, ça a été vraiment donc l'une des premières réactions ecclésiales à la suite, donc québécoise. Donc, il me semble qu'en regard vraiment de nos liens avec la Perle des Antilles, les liens historiques, et face à cette situation-là, je pense qu'il y a une parole d'Église vraiment qui s'ajouterait aux autres voix qu'on a entendues jusqu'ici. Je pense qu'on a un devoir vraiment moral, là, vraiment de réitérer vraiment toute notre solidarité, toute notre amitié, et d'interpeller, comme vient de le faire donc la Conférence religieuse canadienne, donc nos élus face à cette situation qui est intenable. Voilà.
Alors, un devoir moral d'intervenir, mais surtout de se tenir informé, en tout cas, de la situation. Je vous rappelle que sept religieux, cinq hommes, deux religieuses, ont été enlevés le dimanche dernier, le 11 avril, en Haïti. « Le Québec aurait-il besoin de sa propre conférence épiscopale? C'est la question qui coiffe un reportage que signe le journaliste Philippe Vaillancourt de l'agence de presse Présence. Alors que le visage du catholicisme continue d'évoluer rapidement au pays, des catholiques québécois se demandent s'il n'est pas temps pour le Québec de songer à avoir sa propre conférence épiscopale. Cette idée est alimentée par une série de malaises devant la réception plus que mitigée de déclarations qui ont émané de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qu'il s'agisse d'aide médicale à mourir, de morale sexuelle, de la révision des partenaires de développement et paix, ou encore des récents cafouillages communicationnels autour de la vaccination. Sabrina Di Matteo, vous étiez particulièrement enthousiaste à l'idée de discuter de cette question-là. C'est que vous avez une position déjà sur le sujet?
Non, j'ai pas nécessairement de position et je ne suis pas non plus tout à fait à cheval. En fait, je suis assez mitigée sur la séparation du Québec ou pas. Mais je trouve que c'est une question fascinante et les réflexions qui sont apportées par les différentes personnes interviewées dans cet article qu'on trouve de ce matin là, sur le site de Présence Info nous montrent que ce sont des réflexions très riches et nous montrent que la réalité est assez complexe. Par exemple, déjà de poser la question, est-ce que le Québec devrait avoir une conférence épiscopale différente? Alors, il faut préciser pour nos auditeurs que au Canada, donc la conférence épiscopale regroupe les évêques du Canada entier et en tant que conférence, elle a une... elle peut parler d'une seule voix, elle peut prendre des décisions en tant que conférence. Voilà, il y a une force qui est différente, par exemple, de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est plus un statut consultatif, qui peut bien sûr émettre des messages, des communiqués, mais qui ne pourrait pas soudainement décider de décréter quelque chose pour évidemment tous les catholiques du Canada. Et dans les autres régions du pays, ben on a l'Assemblée épiscopale de l'Ontario et on a l'Assemblée épiscopale des provinces de l'Ouest et la même chose du côté maritime. Voilà pour un petit fonctionnement. Là. Donc, on comprend qu'il faudrait que le Québec soit un pays pour pouvoir avoir sa propre conférence épiscopale, mais voilà, est-ce que ce serait possible de partir de l'idée qu'il y a vraiment un catholicisme différent au Québec? Peut-être, mais en même temps, ça veut dire, je crois que c'est un petit peu simplificateur, parce que déjà, si on regarde l'expression du catholicisme au Québec, on voit qu'il y a différentes tendances, différents mouvements, tout le monde ne vit pas sa foi de la même manière, et donc je pense qu'on devrait parler plutôt de différentes sensibilités et de façons de vivre la foi catholique au Québec. Alors, c'est pas nécessairement uniforme. Et par ailleurs, il y a des francophones hors Québec. Alors, est-ce que eux sont à l'aise avec la manière de vivre un catholicisme canadien, anglophone, et est-ce qu'il est uniforme, lui? Non, en fait, c'est ce qu'on voit, notamment à travers des propos du sociologue des religions, Martin Meunier, qui a beaucoup recherché ce qui concerne le catholicisme, l'héritage, la pratique et les projections d'avenir aussi pour le catholicisme au Canada et ses différences culturelles. Donc c'est pour moi, voilà, je dirais que c'est une question fascinante à considérer. En tout cas, elle peut nous faire avancer dans des réflexions sur comment la Conférence des évêques du Canada peut mieux donner à voir la diversité qui est présente parmi les évêques qui représentent eux-mêmes des populations catholiques et comment est-ce que ces sensibilités peuvent se retrouver dans ce que fait la Conférence des évêques. C'est ça le problème de ce qu'on évoque ce qu'on évoquait là au début là, des cafouillages autour de la question de la vaccination, développement et paix, l'aide médicale à mourir. Tous les catholiques n'ont pas exactement la même opinion là-dessus et possiblement tous les évêques non plus. Alors comment est-ce que la conférence peut en rendre compte? Ça revient à ce que j'ai dit dans une chronique il n'y a pas longtemps. Qui parle au nom de qui?
Oui. Là, il faut dire que la Conférence des évêques catholiques du Canada existe là, sous un autre nom à l'époque, mais depuis 1943. Et dans cet article-là de, que signe Philippe Vaillancourt, il y a Sébastien Lacroix qui travaille pour un conseil scolaire en Ontario et qui lance quelque chose comme « Oui, c'est vrai que ça existe depuis 1943, mais ça fait des décennies qu'il n'y a pas d'unité à l'intérieur de ce groupe-là. » C'est votre opinion, Frédéric?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je pense un exemple qui est très, très, très proche de mes sensibilités et très proche de mon cœur. On peut remonter d'il y a quelques années. Souvenons-nous, dans le sillage de la Commission de vérité et de réconciliation, l'un des appels à l'action, c'était donc de faire venir en fait le pape François pour qu'il prononce des excuses pour évidemment le génocide culturel perpétré dans les pensionnats autochtones. Exactement. Et rappelons-nous, donc je connais quand même quelques évêques du Québec et il y en a quelques-uns dans l'Ouest canadien, hein, Monseigneur Boland en Saskatchewan étant vraiment l'incarnation peut-être. Mais donc j'ai l'impression très 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 forte que justement cette polarisation, nuit à l'exercice vraiment épiscopal. Il y a une difficulté d'avoir des positions communes et justement sur cette question-là, ça avait été vraiment profondément honteux. Là. Rappelons-nous le point de presse qui avait été catastrophique.
Où les évêques avaient dit « le pape ne viendra pas au Canada pour faire des excuses », alors qu'on avait l'impression que les gens parlaient des deux côtés de la bouche parce qu'il y avait des gens qui souhaitaient justement que le pape vienne au Canada.
Ben oui, mais ça me fait penser au ministre Yann Lapronnière qui finalement peut pas prononcer le mot racisme systémique. Donc on le reconnaît de fait, mais non. Bon, c'est un exemple très proche de mon corps, mais ça nous dit quand même quelque chose. Il y a une forme de paralysie, et j'ajouterais dans le sens de ce que Sabrina vient de dire. Effectivement, donc il y a peut-être un rôle qui est délégué à l'exécutif et à la permanence de la conférence épiscopale qu'il faudrait certainement questionner. Donc, est-ce que c'est effectivement la voix de tous les catholiques du Canada? Mais plus fondamentalement, moi, je demeure convaincu quand même qu'il y a une sensibilité qui est vraiment une sensibilité ecclésiale québécoise qui demeure majoritaire. Est-elle représentative de l'ensemble de tous les catholiques? Non, assurément. Mais on a vraiment cette impression sur différents enjeux. On l'a vu sur les rituels mortuaires pour les gens qui auraient demandé l'aide médicale à mourir. On pourrait faire la longue histoire de tout ça, mais on sent bien à la fois un malaise, vraiment un malaise de la part d'un grand nombre de catholiques. Donc sur l'image de l'Église, l'image finalement de la foi catholique qui est portée par et cette tentation effectivement du repli vers une conférence épiscopale vraiment typiquement québécoise.
Ben, on l'a vu, en tout cas, encore récemment. Là, vous vous souvenez de l'histoire du vaccin. Là, vous avez la conférence épiscopale qui se prononce sur la question du vaccin, sur la moralité de deux de ces quatre vaccins qui pourraient être proposés aux Canadiens et Canadiennes. Et là, vous avez des évêques québécois qui disent « Je suis mal à l'aise avec cette déclaration-là de mes confrères. Je ne l'ai pas lu, je ne l'avais pas vu, je viens de l'apprendre comme vous par les médias. » Alors, on sentait tout le fait que les gens étaient mal à l'aise devant ça. J'aimerais vous entendre là-dessus, Suzanne Loisel. Vous penchez de quel côté?
D'abord, j'ai trouvé que la question intéressante. Je veux dire, précisément dans le contexte actuel où on sent vraiment un malaise par rapport à des dossiers chauds et que l'Église n'a pas de paroles pertinentes ou fortes ou rassembleuses ou alors moi je salue le journaliste Philippe qui a fait ce genre d'article pour soulever ce genre de questionnement. Si je me réfère à mes propres choix politiques, ben je me dis au plan politique, moi j'ai des idées sur l'autonomie du Québec. Et pour être cohérente, j'en aurais effectivement aussi. Je trouverais ça très cohérent dans la mesure où on aurait un pays québécois, qu'on ait une conférence québécoise, épiscopale québécoise. Mais on n'en est pas là. Et ça m'apparaîtrait un peu un cheval boiteux d'avoir une structure politique, c'est-à-dire une structure ecclésiale qui ne correspond pas non plus au paysage politique. Mais moi, j'avoue que, autant je trouve la question fort intéressante, je me dis de poser la question si les évêques n'ont rien à dire. Penser à un changement de structure, si les évêques n'ont rien à dire, moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt là-dedans. Et je comprends pourquoi j'ai trouvé très heureux cet article-là, c'est que ça met en perspective le manque de leadership, le manque d'idées, le manque d'options par rapport à des malaises dans notre société ou à des enjeux majeurs. Bon, on a fait allusion au vaccin, on a fait allusion à la crise de développement et paix, etc. Comment ça se fait que les évêques québécois n'ont rien eu à dire par rapport à la crise développement et paix? Me suis réjoui, je pense que je l'avais dit même en onde dernièrement, que ben, tant mieux si la question du vaccin, il y a des évêques qui se sont levés. Et j'avais posé la question, ben, pourquoi ils ne se sont pas levés par rapport à développement et paix? Donc, moi, la question fondamentale, ça me ramènerait à Hans Kuhn. La liberté de parole, la liberté de penser, la cohérence entre ses aspirations, sa foi, ses options pastorales. Alors, moi, poser la question, c'est très intéressant, mais les évêques auront-ils plus à dire parce qu'il y a un changement de structure? Moi, actuellement, compte tenu de la constitution de la conférence, moi, j'ai des doutes. On n'est plus à l'époque des évêques qui avaient une parole forte. Je pense à Proulx, je pense à Deroux à Vancouver, je pense, etc. J'ai des blancs de mémoire sur les noms, mais des évêques qui ont mené des luttes sociales importantes. Et là, on est... En tout cas, peut-être que je ne suis pas assez l'activité ecclésiale.
Mais peut-être qu'on ne les entend pas non plus.
Mais moi, je pense que ou ils ne parlent pas, ou ils n'ont rien à dire, mais il y a rien dans l'espace public. Je veux dire, par rapport à la pandémie, qu'est-ce qu'ils ont eu à dire? Qu'est-ce qu'ils ont à dire actuellement sur la crise de développement? J'y reviens parce que je trouve ça dramatique. C'est un organisme qui appartient à l'Église, qui a été mis sur pied par les évêques. Et que, je ne sais plus, 60 ans plus tard, ils n'ont rien à dire sur la crise actuelle. Est-ce que le fait d'avoir une conférence épiscopale québécoise libérerait leurs paroles? Si c'est ça, je milite pour ça, mais je ne suis absolument pas convaincu.
Alors, ben voilà. Alors, c'est plutôt rare qu'à Foi et Turbulence, à la table ronde, on discute de sujets hypothétiques. Habituellement, on travaille sur l'actualité. Mais là, c'était une perche que nous tendait, d'une certaine manière, ce journaliste-là qui analyse, qui a osé demander à 6 intervenants et intervenantes quelle était leur opinion sur la question de la conférence épiscopale canadienne ou québécoise. Alors, voilà. Alors, c'est tout pour notre émission cette fois-ci. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'être avec vous et d'avoir pu partager ces moments-là avec nos 3 invités. C'est l'avant-dernière table ronde. Hein? La prochaine fois, ben, ça sera la dernière table ronde de l'émission Foi et Turbulence. Alors, je vous rappelle que Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité, notre dernière, se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 28 avril 2021. On vous y donne déjà rendez-vous. Alors, merci à nos invités d'aujourd'hui, Suzanne Loisel, Sabrina Di Matteo et Frédéric Barriot. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin, à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence qui vous remercie d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.